Kiss Me Forever, Julien Doré.
C'est Nicolas Bérard qui signe l'édito de L'Âge de Fer numéro 92 de ce mois de décembre 2014. Celui-ci titre Le repas, tout un monde, ça c'est L'Âge de Fer. Mais dans son édito, il parle de toute autre chose, Nicolas Bérard, il parle des chiffres des aides à la presse, et on y apprend que ces subventions d'État données à la presse depuis la révolution de 1789 avaient pour fonction d'encourager la libre communication des pensées entre les citoyens, et on y apprend que cette libre communication des pensées passe beaucoup par la télé, puisque Télé 7 jours par exemple touche directement 7 millions d'euros, hein, oui quand même, hein, 7 millions d'euros d'aide, de subvention d'État. Là où, par exemple, le journal L'Âge de Fer, ce mensuel que l'on aime bien feuilleter ensemble à l'antenne une fois par mois, eh bien ne touche rien en fait. Allô Nicolas Bérard, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Ça doit faire enrager quand même, hein, ces chiffres des subventions à la presse là quand ça tombe pour vous.
Alors ça fait enrager, oui et non, c'est-à-dire que nous, on les attend pas vraiment en fait, ces aides à la presse. Clairement, on a droit à des aides indirectes, donc ça se joue en fait au niveau de la fiscalité. Mais après, c'est vrai qu'il y a un gros pactole, ça représente à peu près 400 millions d'euros par an d'aides directes, donc c'est de l'argent qui est directement versé dans les caisses des journaux, sur des critères qui sont... carrément discutable, quoi, on peut dire, puisque on cite par exemple l'exemple de Télé 7 jours, mais aussi de Closer, qui touche plus d'aide d'État que le monde diplomatique. Donc effectivement, quand on sait que ces aides, à la base, elles sont faites pour encourager la libre communication des pensées entre les citoyens, on peut se demander si Closer favorise cette libre pensée plus que le monde diplomatique.
Parce que en fait, ce qui est biaisé, c'est quoi ? C'est le mode de calcul sur lequel on va donner cette subvention. C'est au nombre de lecteurs, par exemple, c'est ça ?
Voilà. Alors il y a tout un lot de critères. Ça va aussi bien du tirage du journal, c'est-à-dire oui. Au nombre de lecteurs, le nombre de salariés, je crois aussi de chaque journal, etc. Donc il y a tout un tas de critères, mais par contre l'intérêt du journal en lui-même n'est pas pris en compte. Et là c'est discutable. Alors c'est vrai que ça peut être dangereux de poser des critères sur l'intérêt du journal, mais quand même on pourrait en mettre un minimum puisque pour reprendre l'exemple de Closer et du monde diplomatique, on comprend quand même qu'il y en a un qui est plus intéressant que l'autre. Et encore plus dans le cas de Télé 7 jours, je dirais, qui là est clairement un magazine de programme de télévision.
Nicolas Bérard, c'est l'occasion de rappeler de comment vous vivez, vous, à L'Âge de Fer, du coup.
Eh bien, nous, on vit uniquement, en fait, grâce aux ventes du journal, donc uniquement grâce à nos lecteurs. De ce côté-là, on a aucune aide publique. Voilà, on n'en réclame pas spécialement. Mais à la fois, c'est vrai que quand on voit passer 400 millions dans la poche de certains journaux, bon, ça fait un petit peu envie. À la fois, on vit très bien comme ça.
Voilà, et puis je rappelle, vous êtes une SCOP, hein, c'est ça ?
Oui, on est en SCOP. Et je ne l'ai pas précisé, mais à mon avis, c'est important de le préciser aussi. C'est que quand je dis qu'on vit uniquement avec l'argent de nos lecteurs, finalement, avec juste les ventes du journal, c'est qu'il n'y a pas de publicité en plus dans le journal. Donc c'est vraiment uniquement avec ce journal à 1,50€ qu'on arrive à faire vivre le journal.
Voilà, et je rappelle aussi que du coup, bah, vous êtes en pleine campagne en ce moment d'abonnement, hein. Vous essayez de faire monter vos abonnements, je crois, à 11 000, qui serait le seuil d'équilibre, hein, pour vous.
Exactement. Ouais, on a eu deux années là où on était un petit peu en déficit à la fin de chaque année. Donc on a lancé cette campagne. L'objectif c'est d'atteindre 11 000 abonnements. Effectivement, c'est ce qu'on a calculé pour être à l'équilibre. Et on l'a lancé il y a 2 mois et ça répond super bien. Donc on est vraiment content. Le nombre d'abonnements a déjà, je crois qu'on en a déjà un millier en plus, voire un peu plus. Donc la campagne fonctionne vraiment bien.
Voilà, puis c'est une bonne idée.
Ça montre en même temps que les chronolecteurs s'investissent, quoi, et font aussi tout ce qu'ils peuvent pour que le journal continue comme ça.
Et puis voilà, c'est une bonne idée, cadeau de Noël, d'offrir un abonnement d'un journal qu'on aime bien. Ça coûte 20 € hein, à l'année, l'âge de fer.
C'est ça, oui.
Vous râlez après les 450 000 euros que le Conseil général du Tarn a versé en plus à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne pour la bonne réalisation en toute sécurité des travaux de Sivens. Ça, c'est à lire en page 2, hein, juste en face de votre édito.
Exactement. Ce qui est déjà 450 000 euros, ça paraît beaucoup. C'est une somme importante qui a été votée en avril. D'autant que c'est avant tout l'État qui est chargé de faire régner l'ordre sur une zone, si on peut dire ça comme ça. Mais surtout, ce qui est vraiment aberrant, c'est que en avril, il y avait déjà une forte contestation sur le site et ce que réclamaient les opposants à l'époque. Il n'y avait pas encore eu vraiment de violence, mais ce qu'ils réclamaient, c'était un débat contradictoire avec le président du Conseil général, donc Thierry Carsenac, pour ne pas le nommer. Et Thierry Carsenac a toujours refusé ce débat. Par contre, il n'a pas hésité à mettre à faire voter un avenant donc au contrat qui liait le Conseil général à la CACG. Pour rajouter 450 000 euros dans le budget, qui est de 8,5 millions, pour pouvoir embaucher des sociétés privées de sécurité et mener à bien son projet.
Voilà, et puis
au niveau démocratique, c'est vrai que quand on refuse un débat d'un côté et que de l'autre on met une telle somme, 450 000 euros, pour faire dans la sécurité. Voilà, il y a de quoi se poser des questions.
Et vous taclez en fin d'article au passage les journalistes qui se posent beaucoup plus les questions de savoir si les zadistes sont du coin ou pas, s'ils sont violents ou pas, et ne vont pas tellement chercher du côté qui est membre de cette CACG par exemple, et comment cela fonctionne de ce côté-là.
Exactement. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts entre des élus du Conseil Général qui à la fois siègent à la CACG, donc la CACG c'est celle qui a réalisé les études qui ont démontré entre guillemets la nécessité de construire le barrage, ensuite c'est elle qui devait construire le barrage, c'est elle qui devait le gérer, et donc dans le conseil d'administration de cette compagnie, on trouve des élus du Conseil Général et des représentants de la FNSEA qui est un syndicat agricole pro-agriculture intensive, quoi. Donc on voit qu'en fait, sous des aspects qui peuvent avoir l'air démocratiques, où il y a beaucoup d'intervenants autour d'un même dossier, finalement on retrouve toujours les mêmes personnes, et toutes ces personnes ont des intérêts communs. Donc effectivement, quand il y a eu les violences sur Sivens, les médias se sont beaucoup interrogés sur l'identité de ces zadistes. Alors la grosse
question, encore aujourd'hui, hein, et même après aujourd'hui, ça continue comme ça.
Et encore aujourd'hui, voilà, c'est la grande question qui les occupe, c'est de savoir est-ce que c'est des casseurs ou est-ce qu'ils sont pacifistes. En fait, il y a de tout chez les zadistes. On peut pas définir le groupe des zadistes, mais la question, elle est beaucoup plus claire quand on la pose au niveau des élus. Est-ce que ces élus sont pour le débat ou pour la violence, la violence peut-être pas, mais en tout cas pour un passage en force. Et là on voit, c'est pour ça qu'on a titré 450 000 euros pour la castagne qui ont été votés par le Conseil Général et 0 euros mis sur la table pour le débat.
Et c'est à lire dans le magazine L'Âge de Fer de ce mois-ci. À lire également autre article signé Nicolas Bérard qui est avec nous par téléphone sur CFM pour faire passer la consigne. On voit qu'il y a des idées de retour à la consigne. Vous savez, rapporter sa bouteille de vin, rapporter sa bouteille de lait, ce genre de choses. Eh ben, on y retravaille aujourd'hui. Certaines personnes repensent à ça parce qu'on s'aperçoit, eh bien, que finalement, ça coûte beaucoup moins cher.
Beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus écologique dans le même temps. Ouais. C'est-à-dire que c'est une pratique qui est en plus très bien perçue par la population en règle générale. Voilà, les gens trouvent ça sympathique et logique en fait. C'est vrai que c'est un geste qui est complètement logique d'avoir une bouteille vide, de la ramener, qu'elle soit lavée et qu'elle puisse être réutilisée. Ça paraît logique. Mais c'est une pratique qui a été complètement abandonnée dans les années 50-60, en fait, avec l'avènement du plastique et du tout plastique. Et dans le même temps, la France, contrairement à d'autres pays, a privilégié une politique pour le recyclage du verre. C'est ce qu'on fait actuellement. On amène nos bouteilles en verre dans les containers. Là, le verre est fondu et resoufflé, quoi.
Et ça crée une économie, donc effectivement, c'est vers cette économie que ça a été fait. Ouais.
Oui, voilà, c'est économique.
Voilà, on a privilégié ce mode économique plutôt qu'un mode plutôt écologique, quoi, on va dire. Moi, ce qui m'a plu en lisant votre article, c'est de découvrir cette espèce de slogan qu'il y avait, cet argument de vente qu'il y avait en 1963. Cette entreprise d'huile d'olive qui faisait l'argument de vente suivant, c'est plus sûr, non consigné, la bouteille ne sert que pour vous, et donc c'était la réclame, quoi, hein, c'était pas la peine de consigner, quoi. Voilà, ça c'est à lire. Il y a d'autres choses, hein, il y a un bel article sur le vélo électrique, puis il y a surtout le dossier autour de la marmite qu'on a plus le temps d'aborder ici, mais je vous invite à lire encore une fois tous ces articles sur la soupe populaire, sur le jeu de rôle où l'on mange, ou encore sur les banquets au fromage de Frasne, qui est un petit village où il n'y a pas grand monde, mais qui visiblement arrive à une fois par semaine à rameuter quelques 200 personnes autour d'une fondue au comté, et puis plein d'autres choses comme ça qui sont qui font plaisir parce que c'est des infos positives aussi. Ça montre aussi que les gens peuvent se bouger un petit peu différemment et que quand ça porte bien le nom, hein, l'âge de fer, c'est des outils pour réinventer le monde. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Bérard, pour en parler sur CFM Radio.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, 17h30, 19h, à qui le tour ? La vie des pays.
Les libraires montalbanais, dans une minute.
CFM, à Moissac. Moissac. 90.7. 90.7.
En Tarn-et-Garonne, c'est naturel de partager un repas entre amis, des idées ou même sa voiture. Alors pourquoi ne pas partager la route ? Nous sommes tous, à un moment, un usager fragile de la route. Un usager sans protection. Et un jour, peut-être, une victime. En 2013, des piétons, des cyclistes ou des motards ont payé de leur vie l'inattention et le manque de partage.